Manchester 2010, c'est un génie.
Et c'est
pas vrai, c'est pas vrai. Deux fois, ça, c'est pas vrai.
Chut. Les massues, il faut pacifier, elles pèsent pas moins de 500 grammes chacune.
Et but.
Et troisième
et but d'Emmanuel Petit, qui marque à la dernière minute.
Et défonçage sans les mamelles du Tour de France, alors il se défonce car la ligne est encore loin.
Ah, je l'ai jusqu'au bout, 15 jours sans l'entendre, cette jingle. Et oui, de retour, l'équipe du Café des Sports, ou l'équipe, devrais-je dire, le duo en ce jour. Bonjour Damien Ski.
Bonjour.
Eh oui, l'ami Raoul devrait peut-être arriver, nous verrons. L'ami Gonzalo est pour sa part excusé. Problème de maladie, je ne sais quoi.
Il y a plein de choses qui traînent en même temps.
Bonne récupération. Eh ben, vous retrouverez comme toutes les semaines du sport, de la musique. On parlera d'abord des sports locaux, après on parlera de rugby avec et le top 14 et l'équipe de France. On parlera donc de derby et de crunch, puis on parlera de basket, et puis on reviendra sur les grandes lignes de l'actualité sportive de ces derniers 15 jours en vrac, dans le désordre. Peut-être un peu d'athlétisme avec le retour au sommet de Renaud Lavillenie. Peut-être que nous aborderons les désillusions lyonnaises, peut-être l'espoir olympien de ce soir. Le tout en musique. Pour ma part, quand même, 2-3 petites infos. Et ouais, si le Café des Sports était fermé, c'est que nous avions, et notamment le patron, décidé de cette fermeture annuelle de 15 jours pour découvrir d'autres cieux. J'en ai pris plein la tête en Espagne. Je suis pas arrivé au bon moment. On m'a dit que, mais non, on ne se dopait pas, que ce n'était pas possible qu'un beefcake haché fasse monter l'Alpe d'Huez à 21 km/h de moyenne, que ce n'était pas de la faute du dopage. Bah d'accord, mais moi je me suis dopé là-bas. Hein. Chupitos, 2 centilitres de shooters, 1 euro, ça y va, jusqu'à 25 ça va, après c'est plus dur. Et puis sinon, bah, les pistes étaient bonnes. Et toi Damien, si t'as fait du sport pendant ces 15 jours?
Ouais, comme d'hab, je vais 15 jours à Megève régulièrement. Donc je commence toujours par une piste bleue le matin à la première heure pour me faire les jambes, une verte quand je me sens mieux, et puis j'ose me lancer sur les pentes un peu plus techniques en milieu d'après-midi. Non, non, aucune. Un peu de sport bien sûr dans la boîte carrée.
Ah, moi si, vers midi en général, j'ai pris la piste jaune. La piste de jaune, pardon. Et bah tout de suite on va enchaîner avec un premier morceau issu de la sélection. Et oui, il est de retour sur Évreux. Il va vous fracasser les oreilles. Je parle bien sûr. Non, on va pas commencer par lui. Ah, allez, peut-être. Non, allez. On le mettra tout à l'heure.
On a trop parlé là, faut le balancer.
Ouais, bon allez. Tout de suite maintenant. Merci Bernardo. Extrait du nouveau Ed Charles. Ah, j'ai plus de micro. All night long.
All right.
We'll be right back.
toute la nuit. Head Charger, sélection de l'ami Bernardo qui nous écoute sûrement sur 102.4 FM ou principeactif.net partout dans le monde. C'est ça, dans le monde, on
exactement,
peut dire.
Exactement, ouais, sur la planète Terre. Ouais.
Et même peut-être dans les fusées spatiales.
Aussi.
Peut-être, je sais pas s'ils ont Internet dans l'espace. Faudrait qu'on appelle à Vernon, la SNECMA, pour savoir s'ils embarquent Internet là-haut.
Je te laisse faire.
Allez, on va parler de sports locaux. Tout à l'heure, je parlais de crunch ou de derby. Et ben, on va commencer par un derby basketballistique, comme dirait Damienski.
Ouais, du lourd, là, en plus. Hein.
Ah ouais, là... C'est dommage que le Gonzalo soit pas là quand même pour tailler un peu les Rouennais. Hein.
Je pense que les supporters amicalistes l'ont fait puisque a priori il y a eu trois quarts d'heure de chance sur le parquet. Parquet qui sert suite aux rencontres du SPOR à domicile à faire le lieu de comment dire
de VIP, réception.
De réception. VIP, ouais. Et en fait il y a juste deux paravents qui séparent et il semblerait que pendant trois quarts d'heure ça a chanté.
Alors, eh oui, la LM Basket a été gagnée à Rouen, 83-65, moins 18 pour le SPOR. Voilà, c'est à l'image de la saison des amicalistes. Un coup j'en mets 20, un coup j'en prends 30. Vraisemblablement, le prochain match qui suit sera pas bon.
Bourg-en-Bresse,
voilà. Mais bon, en attendant, c'est une victoire qui enfonce un peu plus le SPOR en bas. Évreux peut toujours y croire, ça va dépendre de est-ce qu'ils vont être capables d'enchaîner une petite série d'ici la fin de l'année pour rejoindre le top 8. Voilà, ils en parlent plus dans le coin local aujourd'hui, ils parlent pas de play-off, ils parlent de jouer les matchs les uns après les autres. L'apport d'un Ponce, l'apport d'un Drake Reed, d'un Guillaume Ponce et d'un Drake Reed est important dans la stabilité de l'équipe. Est-ce que ça va permettre d'enchaîner? Il y a eu un bon, on le critique souvent, un bon Roland. Bon Roland sur la marque hein, parce qu'il claque de mémoire Roland il joue 38 minutes, il claque 20 points à presque 60% de réussite.
Je crois qu'il fait 7 ou 8 passes décisives aussi hein.
Ah non, il fait 3 passes décisives. Le vrai problème de la LM c'est les passes décisives ou le jeu de passe, le jeu collectif en passe. Mais il y a 14 passes décisives tout de même sur le match réparties sur 7-8 joueurs. Donc voilà, Guillaume Ponce en fait 2, Constantin en fait 2, ce qui est plutôt pas mal. Bonne performance aussi du petit jeune, et on en reparlera après.
Gros match même.
Voilà, de Laou Konaté qui enchaîne entre la N3 et la Pro. Là, il a joué 26 minutes, 14 points à une quarantaine de 50% de réussite au minimum. Il a pris des rebonds, il a fait des passes, il a perdu quelques ballons.
Grosse défense, il semblerait aussi.
Ouais, une interception. L'équipe au global, quand même, 15 interceptions. Donc, c'est plutôt pas mal. Voilà, Konaté, une évaluation de 16, ce qui est plutôt bien. Et ça correspond avec la bonne nouvelle qui est tombée là. Il vient d'être signé pour 2 ans en contrat pro. Voilà, un jeune français. On rappelle, il arrivait National 1 l'an passé. Il jouait à Bayonne. Donc voilà, je crois coaché oui, par Christine Glanton.
Ça doit être ça.
Voilà, donc ça c'est... Après, Jérémy Awood, toujours dans les sommets. Hein, 23 d'évaluation, 12 rebonds, même s'il a eu un début de match ouais. Très compliqué. Semble-t-il, on va dire, mis sous entonnoir par Sambadia, voilà, qui l'a éteint.
Il a marqué son premier panier au bout d'une dizaine de minutes. Mais c'est bien rattrapé par la suite.
Alors, et puis, vous me demanderez, et le Mezrelton ?
Ah ouais, le Mezrelton.
Ah ouais, et ça va toujours pas mieux. Hein, pour ils doivent être toujours aussi contents d'avoir signé au SP Rouen. Ludovic Schell, 25 minutes quand même, 8 points, 7 déval. Teddy Mézeroy, 10 minutes, 3 points, 6 déval. Parce qu'il a pris 4 rebonds qui font que ça score. Voilà, c'est on va dire, somme tout.
En tout cas, c'est la LM Évreux qui domine en Pro B la région, hein, qui a bien validé sa suprématie cette année, puisqu'on le rappelle qu'à domicile, il l'avait emporté de 8 ou 10 points, 7 points.
Ouais.
Et c'est vrai que là, c'était une victoire. Il semblerait en plus à sens unique, malgré le mauvais départ de l'équipe, au score, puisqu'il perdait 10-0, si je ne m'abuse. Si je ne m'raguse, pardon. Donc, bonne nouvelle ouais, pour le basket hébreuxien tout de même.
Alors, moins bonne nouvelle, mais de toute façon, c'est plus une surprise maintenant. Netreville, les demoiselles de Netreville de l'ENBB, 56-69 perdues de nouveau à la maison. Elles s'enfoncent encore un peu plus, voilà, et je crois que voilà, elles retrouveront la régionale de manière définitive au mois d'avril. Autre sport, autre ballon qui rebondit dans une salle. Et ben on va parler de handball avec la bonne victoire de Saint-Marcel-Vernon contre le Grand Nancy, et non pas le Grand Tanguy, bien le Grand Nancy, 28-24, le SMV est cinquième au classement général, affaire à suivre en Pro D2. Côté pré-national, Saint-Sébastien a été gagné à Blainville 25-31. La bonne nouvelle au-delà de la victoire, c'est qu'ils avaient perdu 5 points au classement général pour un défaut d'arbitre. Mais en fait, c'était une erreur de machin, de truc, de bidule. Les 5 points devraient leur être restitués et ainsi ils devraient revenir à 1 point du leader Saint-Marcel-Vernon, la B. Donc, affaire à suivre, peut-être avec une possibilité de monter en N3 sur la fin de saison. Ça, c'était question. On vient de parler de règlement et ça va me permettre d'enchaîner avec le volleyball. Pourquoi je vous parle de règlement et de volleyball ? C'est que le VB. Qui a été gagné au Hainaut 3-2 après tie-break, 17-15 au tie-break. Donc voilà, on avait souvent dit qu'elles n'avaient pas d'épaule, pas de caractère. Et ben là, elles ont été gagnées un match.
Et puis victoire très importante.
Déterminante pour la fin de la saison. Pourquoi ? Parce que les personnes de l'Evreux Volleyball ont porté une réclamation contre le club de mémoire de Terville. Parce qu'elles n'ont pas suffisamment de joueuses françaises dans leur effectif. Ce qui fait que ça donne. Alors, est-ce que c'est les joueuses. Non, ça doit être l'équipe du Hainaut plutôt.
Mais elle l'avait emporté tout de même. Je suis pas au courant du tout de cette histoire.
Voilà. Mais bon, il y a tout un casse-tête. Gonzalo nous éclairera vraisemblablement plus. Ce qui donne que, en plus, ou à moins que ce soit le Hainaut qui n'ait pas assez de joueuses françaises. Et du coup. Elles n'ont même pas été accueillies à la réception d'après-match par leurs adversaires. Ça veut dire qu'elles ont fini leur match, une douche, puis s'en va. Voilà. Le président du club adverse a tenu par elles. Il avait dit « Évreux, je vous aime pas, on vous accueillera pas parce que vous avez menacé de nous machin. » Et du coup, on rappelle pourquoi c'est...
Je lis le sport.
Ouais, faites du sport. On rappelle pourquoi cette victoire est importante. C'est parce que dans le même temps, Terville a aussi gagné 3-2. Donc, Évreux reste au contact et peut toujours se maintenir avec, on le rappelle, pour finir la saison, la réception de Nancy Vandœuvre avec une date qui a été décalée suite à des problèmes de machin, de trucs, de bidule. C'est un peu compliqué. Ah, c'est pas compliqué en fait. Cannes joue la finale du Final Four, la grande finale continentale. C'est ça un Final Four,
oui,
finale
ça,
continentale
ouais.
De la Ligue des Champions.
Oui, ouais.
Pour que toutes les dernières rencontres de championnat ait lieu dans le même temps, ils sont obligés de décaler la dernière journée de championnat. Voilà, donc elles finiront contre Nancy à la maison. Dans le même temps, l'Evreux Volleyball, équipe numéro 2, vous vous souvenez de ce début de saison très laborieux où ils avaient galéré, machin, ça va vraiment, vraiment, vraiment mieux. Victoire 3-0 contre Charenton. Je crois que le VB pointe maintenant à la 6e place du général. Le challenge maintenir l'équipe B en N3 devrait s'accomplir et ainsi permettre aux jeunes joueuses à la future garde de s'aguerrir et pourquoi pas de temps en temps pouvoir venir faire les doublures
de luxe en
pro, voilà, un peu à l'image de la LM Basket avec sa N3 aussi et de son centre de formation.
N3 qui avait perdu 2 points je crois à l'extérieur.
Possible.
Oui,
j'ai pas
ça.
Retrouvé le.
Ce week-end.
Pas retrouvé ça. Autre résultat, on va changer de sport et de ballon et de terrain. Non, je ne vous parlerai pas de rugby, c'était repos afin que tout bon rugbyman puisse regarder défaite de l'équipe de France. Non, il y avait du foot. Pour vous dire que Passy en a pris 4 dans la lunette contre Luçon.
Oh mince.
Voilà. Pendant ce temps-là, en revanche, le FC 27 en mettait 5.
En championnat.
Ouais, à Frileuse.
Ah,
je crois que Frileuse, c'est la banlieue du Havre. Il me semble que c'est un club de la banlieue. Il y a Neige et Frileuse, je crois, dans le club du Havre. Donc ça, c'est important. Et du coup, ils reviennent à 4 points du leader. Ils ont 2 matchs enchaînés contre des très mal classés. Si ça enchaîne bien, pourquoi pas la possibilité, pourquoi pas de jouer une montée possible dans les dernières, avec un mois d'avril passionnant à venir.
Je l'enlève de la bouche de Gonzalo, mais je dirais que c'est tout le bien que je leur souhaite.
Ouais, voilà. Il se réjouit sur le chat. On vous rappelle, vous pouvez chatter en direct. Il est content que nous ayons parlé de l'EFC 27 environ 12 secondes 38. Justement, en parlant de l'EFC 27, on va vous faire découvrir. Peut-être que déjà les auditeurs attentifs de la matinale ont eu l'occasion d'entendre des morceaux, le nouvel album d'Inspecteur Clouseau.
The Two Musketeers.
Voilà, The Two Musketeers. Extrait du nouvel album, on ne pouvait pas s'empêcher de vous passer ce morceau qui s'appelle Téléfoot. Et on vous rappelle qu'ils seront vendredi 23 mars à l'abordage et que vendredi 16 mars, en revanche, il y aura l'ami, l'affreux, on va dire, l'affreux Didier Super.
L'affreux.
Pour sa comédie musicale, si j'étais une réincarnation de Jésus-Christ.
C'est sûr ça, c'est sûr c'est... même.
Ouais, c'est sûr. Et ben voilà, donc le morceau de Téléfoot, extrait du nouvel album d'Inspecteur Clouseau. Et ben voilà, c'était Inspecteur Clouseau avec le titre Téléfoot. Pour tous les aficionados de rugby et du Stade Montois, je vous convie à aller voir le clip. Et pour tous les des amateurs de foot, allez voir le clip. Nos amis Pousse Citrouille en prennent plein la figure sur ce petit clip tourné au stade de Boniface. Voilà. Pour être complet. Et ben justement, pour parler de rugby, on va enchaîner avec ça. Ah ouais, eh oui, cette Coupe du Monde, qu'est-ce qu'on en garde de bons souvenirs. Souvenez-vous, avant cette Coupe du Monde, avant cette finale, il y avait eu la demi-finale avec cette pénalité qui est passée sous la barre des Gallois dans les dernières minutes. Et bah là, c'est à notre tour que c'est arrivé. On aurait pu sauver ce pitoyable match contre les Anglais par un drop victorieux de l'ami Trinduc. Et bah c'est passé en dessous. Mais ça aurait été une fois de plus un arbre qui cache la forêt. L'expression la cabane n'est pas encore tombée sur le chien, comme dirait l'ami Albadadejo. Mais voilà, je pense que cette défaite va faire du bien, va faire de la lessive. C'est un peu décevant pour certains joueurs de finir là-dessus. Je pense à Nalé, qui avait un contrat moral avec Saint-André, à savoir. À partir du moment où le grand chelem n'était plus jouable, il allait sauter. Ben voilà, c'est fait. Donc Nalé finit sa carrière après 10 ans en équipe de France sur une défaite contre les Anglais au Stade de France.
Ce qui n'est pas non plus plus honteux, quoi.
Non, non. Bien mais sûr. Voilà, on aurait aimé le revoir, pourquoi pas, au Pays de Galles, parce qu'il a encore fait 20-25 très bonnes minutes quand il est rentré, qui correspondent peut-être à la bonne fin de match. On pense à Servat qui finira pas sa carrière sur une victoire en tournoi ou sur un grand chelem du moins. Pareil pour Bonner. Voilà. Et puis il y a de la casse en plus, donc l'équipe de France va être assez largement remaniée pour affronter le Pays de Galles. Mais avant ça, on va revenir sur la défaite contre les Anglais. Damien Ski, est-ce que toi qui as vu quelques petits morceaux du match, qu'est-ce que tu peux nous en dire ou nous en retenir?
Alors moi déjà l'action du drop, c'est énorme parce que je la revois encore là se réaliser et j'ai l'impression que c'est au ralenti et je vois que le ballon ne va pas aller au bout. Alors en plus il y a l'effet d'image qui fait que l'angle de la caméra, on a cette impression que ce geste et cet envoi dure des heures et en fait pas du tout. Il semblerait qu'on a fait une première mi-temps catastrophique que je n'ai pas vue. Moi, j'ai principalement vu la seconde. La seconde, je trouve qu'on fait jeu égal. J'ai l'impression qu'on s'est fait avoir, comme vous me l'avez expliqué, comme il semblerait dans la culture du football, du rugby anglais. Eh bien, on se fait endormir un petit peu dans le jeu. Ils nous mettent 3 essais. On en met un avec difficulté. D'ailleurs, on notera peut-être ce joueur-là que j'aime beaucoup et que j'étais content qu'il allait fêter ses premières sélections il y a pas longtemps. Je l'avais évoqué, comme quoi c'est pas un mauvais choix Fofana et qu'il devient indispensable. Non, je suis un peu déçu puisque c'est vrai que, comme tu l'évoquais, des grands joueurs finir sur une bonne note, ça, c'est toujours mieux. Maintenant, je pense qu'une victoire aurait été, non pas imméritée. Une victoire n'est jamais imméritée, mais c'est vrai que voilà, la défaite n'est pas imméritée. Voilà, je finirai là-dessus plutôt.
Alors juste pour moi pour compléter un peu,
beaucoup tu peux.
On a ouais même beaucoup. Pour revenir sur la première mi-temps, on arrive à peu près à faire une entame correcte, à savoir on se met en position d'aller marquer, on négocie mal en surnombre, et puis après on perd un ballon contre 60 mètres plus loin et c'est hop là bon ça c'est fait 7. Après on n'arrive pas à sortir de notre camp proprement par du jeu au pied pourtant. Dieu sait que Boxy, c'est un coup de pied de mammouth, normalement. Là, pour preuve, cette pénalité de 50 mètres qui passe quand même. Mais on n'arrive pas à sortir, ou sans y mettre suffisamment de pression pour empêcher des relances. Et du coup, voilà, ça repart souvent de nos erreurs. Les Anglais ne nous ont rien fait de surprenant. Ça me rappelle la grande époque avec Brian Moore, avec Romandreau à l'ouverture, avec Gus Scott au centre, avec Will Carling. Que je détesterai toute ma vie, je pense, pour son arrogance. Et oui, monsieur Carling, et non pas Carling comme la bière, hein, pour tous ceux qui se rendent régulièrement outre-Atlantique. À savoir, un paquet d'avant qui te mettent la pression de manière efficace tout le match, notamment dans les zones de rock, ce qui a fait que ça a considérablement retardé nos sorties de balles. Et puis à côté de ça, moi j'ai trouvé leur ouvreur déconcertant de facilité et voilà, qu'il avait joué un rugby juste, le petit Farrell, Owen Farrell. Ah bonjour, on va prendre le temps 10 secondes. Bonjour Raoul.
Salut les gars.
Ça va?
Ça va, ça va.
Donc ouais, je disais le petit Owen Farrell, 19 ou 20 ans, et ben rappelez-vous de ce nom, il va sûrement être mis à la place d'honneur pour l'équipe d'Angleterre. Ouais.
Il joue en Coupe d'Europe, hein, avec son club anglais.
Ouais, je sais plus dans quel club il joue.
Je l'avais vu jouer.
Leicester, je crois.
Je crois que tu fais très bien de le souligner, parce que c'est vrai que nous, on a une équipe en reconstruction, quelque part, avec un nouvel entraîneur, plein de choses à mettre à plat. Mais c'est vrai qu'au final, on peut avoir peur, puisque cette équipe anglaise avait beaucoup de jeunes joueurs. Donc il y a un vrai remaniement qui a été fait, donc c'est vrai que merci de le souligner, je pense que c'est une équipe qui va reprendre ses galons de grande équipe.
Alors Farrell, 19 ans, c'est pas dur, c'est l'âge à lequel Wilkinson a commencé en équipe d'Angleterre et il a joué pendant 12 ans.
Donc, tu lui souhaites le même bail.
Voilà, c'est ça, s'il pouvait signer pour 12 ans, à mon avis les Anglais seront d'accord. Après, vas-y.
Il n'y a pas eu photo sur la charnière en tout cas.
Voilà, la charnière anglaise nous a bouffé. Dupuis, il a été
calamiteux.
Raoul et Gonzalo le réclamaient depuis longtemps. Bah, il a été tout simplement pas à la hauteur. Pour preuve, PSL l'a viré au bout de 50 minutes.
Et il
n'est pas reconduit pour le match suivant. Je pense qu'il n'est pas dans la dynamique internationale.
Ça doit être horrible. Tu joues 50 minutes, tu joues peut-être ton avenir en équipe nationale. En même temps, on passe par ça.
Je vous invite à lire le coin jaune. Il y a un bon tiers de page et c'est marqué « Je suis au fond du seau ».
Ça s'est vu, hein. Avec deux seaux de ciment accrochés à chaque pied en plus.
Ouais.
Non, puis là, enfin, une charnière. On parle d'une charnière. On parle pas que de Dupuis, parce que tu parlais du coup de pied de mammouth de.
Ouais.
De comment il s'appelle.
De Boxis.
Déjà s'il servait de ses mains de temps en temps. Enfin non, tu me diras non, faut pas.
Après il y a des problèmes de réorganisation, mais déjà voilà, sur la charnière c'est difficile de lancer le jeu.
Ça veut dire que ça doit rester Trinduc Yachvili.
Yachvili.
Para quand il est rentré, déjà quand Para est rentré, ouais, avec Boxis, ça redit. Ouais. Boxis a été mis un peu en avant.
Tu as dit que les 20 minutes de Nalé avaient correspondu au.
Mais il y avait Servat et puis De Bati en même temps.
Voilà, et puis la charnière qui changeait aussi.
Et la charnière.
En décalé dans le temps, mais.
Déjà, Boxis a été mieux avec Para, j'ai trouvé. Mais quand
Trinduc. Pas être pire.
Mais quand Trinduc est rentré, on a eu encore plus de ballons.
Bon, par contre, moi, je voulais féliciter la performance d'un mec.
Vas-y.
Alain Roland, c'est notre arbitre préféré,
Oui.
Qui a failli nous donner la victoire quand même.
Oui.
Il nous a fait un arbitrage à la maison.
Sur le carton jaune notamment.
Mais pas que sur le carton jaune.
Notamment.
Il a été ultra favorable aux Français sur tout le match. C'est des trucs qu'on voit jamais contre les Anglais d'habitude. On comprend pas trop pourquoi là, mais comme quoi les Irlandais haïssent encore plus les Anglais que les Français. Mais c'était assez risible même. On avait l'impression qu'ils voulaient se racheter de X années d'arbitrage défavorable aux Français.
Si vous voulez, je vous remontrerai aussi un très bon montage qui dure 20 minutes sur l'arbitrage à la finale de la Coupe du Monde. C'est assez fabuleux, ça dure 25 minutes et tu finis le truc, t'as envie de casser ton ordinateur tellement c'est... quand tu prends
à
le temps...
unique.
On l'avait grillé direct.
On l'avait grillé, mais là, la réanalyse vidéo et machin, c'est criant de vérité. Pour revenir au jeu des Anglais, je disais rugby des années 90, Anglais des années 90, jeu à une passe avec beaucoup de vitesse des avants pour t'attaquer plein fer et gagner des mètres. Ils ont toujours avancé à l'impact. Chaque porteur de balle a avancé au moins de 2,60 m. À chaque impact, ils ont avancé d'au moins ça. Et après, une très bonne...
Statistique à l'appui, 2,60 m.
Ah ouais, non, voilà. Et deuxième...
D'habitude, ils parlent plus de centimètres, mais bon.
Voilà. Ah bah, ça peut suffire, hein. Pas besoin d'en avoir des mètres. Hein. Et puis, en fonction du nombre de voyages, ça fait peut-être des mètres. Et dernière chose, et le jeu au pied, qui nous a toujours fait reculer, qui a toujours été dans les angles, pas des coups de pied très forts, mais des coups de pied dosés avec des angles
dans les espaces
libres qui nous ont fait sans arrêt reculer et jouer dans notre camp.
Moi, je trouve que t'es dur sur ce jeu des années 90 à la mode british. Je trouve que c'est nous qui avons joué un jeu des années 90 à la mode british. C'est-à-dire on a levé des quilles, et au moins pendant toute la première mi-temps.
Ouais, un petit peu, ouais.
Comme s'il y avait eu 50 km/h de vent et de la flotte, alors que c'était pas le cas. Et par contre, moi, je les ai trouvés très vite. très vite dans les soutiens, très vite autour du porteur de balle avec des courses qui étaient variées. C'était vachement intéressant quand même. C'est pour ça que je dis que le jeu est quand même beaucoup plus ouvert que ce qu'on peut dire du jeu anglais. Tu parlais d'une jeune équipe, il y a un jeune entraîneur aussi.
Ouais.
Un jeune entraîneur dans la fonction.
Dans la fonction.
Qui est intérimaire. Il sait que son contrat pour l'instant c'est le tournoi.
Qu'il a approuvé.
Il a formé beaucoup de ses joueurs dans l'équipe à prime anglaise. Ça serait intéressant de voir s'ils vont lui laisser les clés du camion pour la suite.
À voir. Après, j'ai bien aimé leur numéro 8. On aurait dit s'il gagnait à sa grande époque quand il était derrière la mêlée toulousaine et qu'on l'appelait Matabio.
Matabio, voilà. La gare de triage.
La gare de triage, voilà. Ouais. Il a une capacité à bonifier des ballons qui était pourtant pas propre pour son équipe. Moi, j'ai trouvé ça... Ou voilà, que j'ai trouvé que c'était un grand joueur.
En tout cas,
par rapport à ça.
Pour le pays qui a inventé le rugby, bienvenue à l'ère de la World Company. On rappelle qu'il y a 6 joueurs d'origine non britannique dans l'effectif et que ces 6 joueurs ont eu un rôle très important.
Rôle majeur.
Pour preuve, l'essai du Samoan Manu.
Manu Chulagi.
Chulagi. Le deuxième ligne casqué Sudaf.
Botta.
Qui a fait une saleté de boulot. Parce que
lui c'est une plaie. Hein. Ah, dans la tradition britannique, voilà. Hein, lui.
Oui, ou Sudaf pour la deuxième ligne, je pense que c'est pas mal non plus. Enfin voilà, ils sont ouverts. C'est peut-être un aveu de faiblesse d'un côté, on en parlait il y a 2 semaines, mais d'un autre côté, c'est payant sur cette rencontre.
Bah, nous aussi, on a bien des mecs de Biarritz et tout ça, où il n'y a pas de Breton en équipe nationale.
Non, Nicolas, si tu retournes en meeting par là-bas, tu vas avoir des problèmes.
Où on n'a pas de Breton, on a quand même un mec de Nancy ou de Metz. Pareil, il est formé à Metz. Ouais. Bon, voilà. Non, il n'y est plus. Pierre, il était Vendéen. Soares-Esquif.
Bah, il revient.
Oui, bah oui.
Il revient dans la liste pour le Pays de Galles.
Voilà, pour suppléer Nalé, qui avait un contrat moral avec PSA. Je ne vous passerai pas un extrait des conférences de presse de PSA parce que...
Monsieur Langue de Bois.
Il pourrait, non, et puis au-delà, en plus de la Langue de Bois, c'est qu'il pourrait mettre 3 minutes à dire ce qu'il met en 8. Quoi. Il part, il a un début proche de zéro, quoi. C'est soporifique. Si, juste pour faire plaisir à Imanol Arinordoki.
Ça sonne pas français, par exemple.
Une fois de plus, sort le big match quand même contre les Anglais avec quelques petites erreurs.
T'enlèves ces 20 premières minutes qui ont été catastrophiques.
Ouais, un peu tout le monde.
Il était au top à ce moment.
Et après, voilà, où je pense que là, on va revenir, on va maintenant parler de ce qui se prépare cette semaine avec le déplacement au Pays de Galles. Pronostic, Raoul ?
Une boucherie ? On va en prendre 20.
Damienski ?
Non, sur saut d'orgueil après l'Angleterre, je pense qu'on perdra, mais pas d'une grosse marge.
Non, mais sur saut d'orgueil, c'est une chose, mais il y a des fondamentaux qui nous font défaut. On s'est quand même fait sérieusement bouger en mêlée, ce qui est une grande première.
Ouais.
La mêlée galloise n'est pas moins bonne que la mêlée anglaise. Et puis, on va
là-bas, ils ont de revanche à prendre, c'est vrai que ça va être technique.
Il y a la revanche à la Coupe du Monde,
moi je pensais pas à ça.
Il y a le grand chelem.
Je pensais pas à ça, ils ont le grand chelem à domicile à jouer, c'est un moment rare. Et puis surtout, déjà il y avait un contraste étonnant entre la vitesse des Anglais et la vitesse des Français. Les Français vont enchaîner leur 4e match en 4 semaines, même s'il y a du 109. Les Gallois vont plus vite, beaucoup plus vite que les Anglais, et je pense qu'on pourra pas suivre.
Moi je pense que voilà, on a bien vu les Français complètement oxy... Mais après voilà, Mas il est oxy, mais voilà, il est obligé de le garder. C'est quand même une pierre angulaire de la mêlée. Arinordoki le garde, pareil, il était oxy. Il en change quelques-uns, notamment Malzieu qui a pas été aussi.
Alors moi, je comprends pas qu'il sorte du groupe, surtout avec la casse à l'arrière.
Voilà, voilà, donc il lance à la place. On va y venir. Hein, il lance à la place le petit Butin
arrière-ailier.
Il le met sur le doublon de poste. C'est la même raison pour laquelle il fait sortir Mermoz. C'est parce qu'il dit que Pointrono peut passer au centre s'il y a de la casse. Il essaye d'avoir justement des joueurs complémentaires parce qu'il sait que le match va être long et qu'il va avoir sûrement besoin de composer en cours de match.
Moi, il y a autre chose qui m'inquiète un petit peu. On a parlé beaucoup de problèmes de redistribution dans le jeu.
Ouh là là,
c'est-à-dire qu'un temps de jeu, ok, deux temps de jeu, pourquoi pas, mais après c'était fini, les joueurs ne se rendaient pas disponibles et ont joué arrêté. La caractéristique des Gallois, c'est d'enchaîner les temps de jeu, c'est de faire vivre le ballon et de le faire courir pendant parfois 5 minutes d'affilée. Nos centres sont cramés de chez cramés et en plus ont montré sur les 2 derniers matchs qu'ils étaient incapables d'aligner une passe. Tu parlais de Fofana, t'es fan de Fofana il bouffe la feuille. Hein.
Ah bah,
3 fois dans le match. Hein.
Il en met un, mais il peut en donner deux.
J'ai vu une action où ça abusait. Pas
avec Para, là, il peut donner. Ouais. Hein, et ça va. Ouais. Non, mais celle-là, il est à 4 mètres de la ligne. Quoi, donc,
il y a souci. Alors, d'un autre côté, on annonce tout de suite une bagarre générale, parce qu'il y a Fritz qui est.
Ouais, il fait rentrer Fritz pour essayer de mettre justement
du lien,
du ballon.
Donc, et Fritz,
Fritz est rentré. Cool. Après. Ouais, ouais. Juste pour clore un peu sur ce match, je pense que ça va être compliqué pour cette raison-là, qu'on a du mal à tenir le ballon avec de la réorganisation et qu'on est peu capable d'avancer au contact. Le seul mec qui est capable, à l'heure actuelle, et ça m'embête de le dire, de prendre un ballon avec de la vitesse et d'avancer devant,
Picabol.
Il ne le prend pas avec de la vitesse souvent, c'est Swarzyski dans les zones aux proches. C'est le seul qui a été capable d'avancer. Après, avec beaucoup de maladresse, avec beaucoup de déchets à côté de ça, mais c'est le seul qui prend le ballon avec de la vitesse.
Il avance de 2 mètres, mais il perd un ballon à chaque fois.
Monstre qui est rentré là.
De Bâti, là. Et il a fait une très bonne rentrée, j'espère.
C'est un monstre.
Ouais, il avait été titularisé contre les Italiens. Voilà,
on l'avait pas vu.
Mince.
Mais à Clermont, il est utilisé comme ça aussi. Il est utilisé comme un backup player minutes. Les 30 dernières minutes et il le fait très bien.
Donc, 130 kilos.
130 bars.
C'est un monstre.
Formé à La Rochelle, le Belge. Parce qu'origine belge, né en 80. En 80, 80, comme Jacob, comme.
80 ?
Ouais, 80.
Il a déjà 32 ans, ce gars.
Eh ouais. Eh oui. Et ben voilà, on clôt cette page rugby. On se retrouve après pour plus d'infos. Et puis, ça va être un peu à l'image de ce match de l'équipe de France. Le titre, c'est No Satisfaction. Et ben voilà, c'était
C'était quoi, monsieur?
C'était Black Mountain avec le titre, donc No Satisfaction. Je crois qu'on va parler de basket maintenant avec toute l'actualité des nuits passées, les faits marquants de la NBA. À toi, Damienski.
As you want.
Alors, ici les studios, à vous, Damienski.
On n'a pas le tapis? On n'a pas le tapis qui va
bien? Non, j'ai mis d'accord. Celui-ci pour changer.
Très bien. Deux, trois résultats, bien sûr, quelques statistiques et classements. Ils nous ont bien sûr deux, trois infos prépondérantes dans ces 15 derniers jours. Donc, dans les résultats de la nuit, premièrement, sachez que New York enchaîne sa 6e défaite d'affilée. En même temps, c'était face à du gros. C'était contre Chicago, 104-99, défaite de New York, 6e d'affilée. Ça sent moins bon, et mine de rien, ça fait quand même bizarre hein, depuis le retour de Stoudemire et tout. Les statistiques sont moins bonnes de Carmelo Anthony. D'Anthony. Les Clippers qui s'inclinent à domicile face à Boston, 85-94. Utah qui enchaîne face à Détroit, 105-90. New Jersey, 99. Milwaukee, 105. Phoenix, gros score de la soirée, 124 à domicile face à Minnesota. Et on reviendra dans les infos qui est orphelin d'un joueur ô combien majeur, qui l'a donc emporté malgré tout, 127-124 à Phoenix. Score de dingue quand même, on peut pas dire
ouais,
que la défense
ça revient sur leur canon des années Mike D'Antoni.
Ah ouais, c'est à l'ancienne, hein. 127-124, c'est énorme. Washington qui s'incline face à San Antonio avec 31 points, si je ne m'abuse, de Tony Parker, c'est 112-97.
31 points, 3 rebonds, 7 passes.
Ouais, grosse statistique. Et la Nouvelle-Orléans qui s'incline à domicile dans un match de bas de classement face à Charlotte, 71-73. Voilà qui est dit, voilà qui est fait. Quelques statistiques pour dire que c'est toujours Chicago qui mène dans la conférence Est, la Eastern Conference, 35 victoires pour 9 défaites. Devant Miami, 31 victoires, 9 défaites. Orlando, 3e pour l'instant, 4e Philadelphie, 5e Indiana, 6e Atlanta, 7e Boston, 8e Milwaukee. Pour l'instant, s'il y avait des playoffs et qu'on s'arrêtait à ce niveau de la saison, on aurait ces 8 équipes en playoffs. De l'autre côté, dans la Western Conference, c'est Oklahoma aussi, avec Kevin Durant, avec Russell Westbrook en particulier, qui domine les débats, 39 victoires, 9 défaites. Devant San Antonio, 27-13, je les ai voyés pas si bien en début de saison. Un Tim Duncan vieillissant.
Ouais, et puis sans Ginobili.
Sans Ginobili qui a loupé pas mal de matchs, pour pas dire beaucoup, mais avec un Tipeee de gala, faut dire ce qui est, qui en réalise peut-être l'une de ses meilleures saisons, pour pas dire la meilleure. 27 victoires, 13 défaites, deuxième au classement actuellement, devant les Lakers, devant Memphis, devant les Clippers, devant Denver, Dallas et Houston. Surprenant 8e. J'avais oublié de dire que pour l'instant, New York n'y est pas dans les playoffs. Ça, c'est dans la Eastern Conference. Et dans la Western, Nicolas Batum non plus, hein, puisqu'ils n'ont que 20 victoires et 21 défaites, donc un bilan négatif. Dans la Eastern Conference, c'est Charlotte qui est en dernier avec 6 victoires seulement. Le plus petit nombre de victoires de la NBA actuellement. Charlotte, 6 victoires, vous imaginez. Et la Nouvelle-Orléans, 10 victoires, elle, pour 32 défaites. Voilà qui est dit, et ça c'était en Western Conference.
Moi je note quand même qu'il y a beaucoup de défaites, même chez les équipes de tête. Hein.
Non mais c'est...
On est à quoi? On est à 40 matchs joués à peu près, et tu prends le troisième de chaque conférence, il est déjà à 13 défaites.
Ouais.
Un truc comme ça. C'est énorme par rapport au...
Et si on regarde un petit peu, dans une saison traditionnelle, il y a quand même, voilà, il y a des équipes qui ne surprennent pas, qui sont capables d'enchaîner les victoires et tout. Et là c'est un peu le cas pour Miami, Oklahoma est capable aussi... bien sûr Chicago, seulement derrière, ces grosses équipes ont déjà perdu contre des équipes dites faibles ou avec vraiment un ratio victoire-défaite qui est fort, et ce qui fait que c'est incroyable, il n'y a pas de régularité, il peut y avoir des surprises, et je pense que cette saison qui est d'ores et déjà tronquée avec un démarrage en retard et donc moins de rencontres sur la saison traditionnelle, va accoucher, je l'ai déjà dit, d'un champion
surprise.
Et surtout, pleuve surprise, puisque déjà au classement, on n'a pas de régularité dans les résultats.
Par rapport à ce qui était... déjà, voir Dallas aussi bas dans le classement, c'est quand même une grande, grande surprise, avec un gros problème dans la gestion de la Marodome, apparemment, actuellement.
Ouais.
Finalement, les Lakers sont devant les Clippers, alors que tout le monde hurlait au loup en parlant des Clippers en début de saison, en disant qu'ils allaient tout casser. Bon, c'est très bien pour faire de la vidéo, le duo Paul... comment il s'appelle, le Red
Griffin.
Nick, Griffin.
Ah ouais, mais en même temps, ils ont Chauncey qui s'est blessé et qui a porté beaucoup malgré son âge avancé.
Mais voilà, les Lakers sont encore devant.
Il est vrai. Peut-être pas pour longtemps, parce que c'est vrai que Chris Paul le disait encore il y a peu en interview. Faudra compter avec les Clippers. En tout cas, au niveau statistique individuelle, c'est toujours Kobe Bryant qui mène à la marque, 28,8 points. Dwight Howard, le pivot superman du championnat NBA, qui 15 rebonds.
Trade or not trade?
Ouais, ça c'est la bonne question.
Il reste quoi là? Il reste 10 jours?
Moins que ça, c'est mi-mars. Donc, normalement, c'est deux jours là encore. Pour la petite anecdote, en parlant d'Orlando, et c'est dans les rumeurs, je voulais en parler dans les infos, mais le parallèle est fait. Pour peut-être conserver leur super pivot, Orlando et ses dirigeants essayent de trader, donc de transférer Monte Ellis, ce formidable shooter de Golden State. Parce qu'avec Stephen Curry, c'est quand même un duo de feu à Golden State. J'y vois pas du tout leur intérêt, parce que je sais pas qu'ils peuvent échanger en contrepartie Orlando. Monta Ellis, c'est un jeune joueur encore avec un avenir en or. Je vois pas du tout l'intérêt, mais bon, peut-être que l'aspect financier, les pétrodollars, les dollars et tout ce que vous voulez feront pencher la balance. En tout cas, au niveau passe et assist, c'est toujours Steve Nash avec ses 67 ans qui mène les débats en se passe décisif par match. C'est Tyson Chandler, le pivot et intérieur de New York, qui est le meilleur en termes d'adresse avec 68,9% de réussite au shoot.
Et le Jukes au rebond, il doit être en train de remonter là, Noah, avec les matchs qu'il enquille en ce moment.
Non, malheureusement non, il n'est pas dans les 5 premiers. Ouais. Je peux vous en dire un petit peu plus tout de suite. Mort tout de suite, Joachim Noah. Je vais vous le dire tout de suite, je cherche, ça y est, il est 10e avec combien de prises par match? Avec 10,4 prises par match. Voilà. Petites infos pour dire que, oui, j'ai parlé d'un joueur orphelin, enfin, une équipe orpheline. C'est bien sûr Minnesota qui a perdu ce formidable joueur dans sa saison rookie. Il s'agit bien sûr de Ricky Rubio, qui s'est blessé il y a 8 jours. Et ça fait très mal à Minnesota, même s'ils ont été capables de s'imposer hier à Phoenix. Là, je pense que vraiment, on ne peut pas estimer...
Il y a quoi ?
Ligament touché. Il est out pour la saison et il est out, pire que tout, pour les JO. Et là, c'est toute la presse espagnole qui s'enflamme.
Ouais. Mais non.
Bah, en équipe espagnole,
regarde le rôle qu'il tenait dans l'équipe espagnole sur la dernière campagne.
Je suis d'accord.
Troisième meneur. Donc,
sauf que là, le déficit en confiance qu'il pouvait peut-être avoir avait sûrement été rattrapé cette saison avec.
On parle d'un autre basket.
Ricky Rubio,
c'était dans
bien
le
sûr.
Contexte NBA, c'est pas dans le contexte FIBA. Et en FIBA, il se prend des brins et il passe pas.
En tout cas, c'est quand même le quatrième meilleur passeur au départ en NBA. C'est quand même malheureux pour lui ce qui est arrivé. Donc Minnesota qui perd son meneur titulaire et joueur assez beau à avoir joué, Ricky Rubio. Donc ligament croisé et donc pas de JO non plus. Le tweet à 25 000 $ pour la dernière. J'ai deux infos. Hein. Le tweet à 25 000 $ parce qu'ils sont forts ces Américains. C'est Tyson Chandler justement qui publie une photo d'une jeune femme dénudée. Et du coup, la NBA s'en aperçoit, c'est quand même rigolo, hein, c'est ta fédération. Vous imaginez, moi qui évolue au basket en haut niveau, en France bien sûr, j'ai la Ligue Nationale de Basket qui me reprend, Monsieur Damienski. Voilà, vous avez envoyé une photo de votre chien en train d'accoucher. Eh bien, je pourrais prendre une sanction bah, là-bas en prenant des images.
Quel beau traitement de la gente féminine. Tu
non, mais pas
une femme dénudée à ton chien.
Je compare Tyson Chandler à moi-même aussi, donc c'est bien qu'il y a du décalage.
Biatch.
Et en l'occurrence, 25 000 $, la NBA qui la rattrape. C'est quand même assez rigolo, quoi.
10 minutes de salaire.
Ouais. Oui, peut-être, mais c'est quand même incroyable que la Fédé juge ainsi, et c'est plutôt très bien. Et puis sinon, l'action hein, de ces derniers jours, j'avais parlé de ce fameux match de Blake Griffin, on aurait pu parler aussi d'un alley-oop de LeBron James qui était assez monstrueux il y a 15 jours de cela. Et bien là, c'est une action d'il y a 2 jours, c'est Gerald Green, un joueur bondissant des New Jersey Nets, allez chercher, c'est l'image de ces 8 derniers jours, enfin elle a 2 jours en l'occurrence. C'est un match monumental en alley-oop, c'est-à-dire qu'il récupère la balle, il est déjà en l'air, il a déjà décollé et il se permet un moulin avant qui est une action où en fait on prend le ballon, on fait un arc de cercle vers le bas et on remet un gros smash derrière. Il a la tête au-dessus de l'arceau, c'est un joueur qui culmine à peu près à 2 mètres, mais c'est pas pour autant qu'il a une détente incroyable. Il est bondissant à tout va. Gerald Green, c'est l'action de ces 2 derniers jours. Un smash incroyable qui vous font plaisir 10 secondes. Allez voir ça sur la planète Internet.
C'est tout pour ta part, Damienski, pour le basket ?
Très bien.
Du complément, Raoul, sur le basket ?
Vous avez parlé de local ?
Sur la NBA. Oui, on a déploré l'absence de Gonzalo qui n'a pas pu tailler le Espoir Rouen et pleuré pour le sort de Michel Véronnet.
Bon, par contre, on a parlé de trade pour la NBA. Il y en a un qui est annoncé aujourd'hui pour la Pro B Basket.
Ouais.
Re-signature de Konaté pour 2 ans.
C'est très plutôt bien. Très bien.
On l'a annoncé comme quoi c'était une bonne chose pour la LM et pour ce jeune joueur qui est arrivé de N1.
Elles ont une N1, monsieur.
Musique, Damienski.
Tout de suite, maintenant.
Eh oui, vas-y.
Il a le droit, c'est incroyable.
C'est ce que j'allais dire.
Ah, il est content là, il a le sourire.
Spécial dédicace pour toi, Gonzalo.
Ah, forcément. Ouais, et du coup, bah,
ça va pas venir.
Tant pis, j'en ai un en rab.
Non, il est là. C'est parce qu'en fait, il fallait le lancer bien dans le temps. Allez, tout de suite maintenant.
On attend. Bumping knuckles, baby. Hip hop, hardcore. Damn, three. Oh shit. He got fire for you with Bumpy on it. Peep the collection. Yo, everybody know that Preem is a beast with the beats. He designed a lot of ways for these niggas to eat. Cause when Bumpy spit pain over Christopher Mars art, it fed all the hood niggas running the street. We live the life, that's why I roll with a mic and gun. I'm Freddie Blassie, you fuck with me, I light you, son. Why niggas ask me if rhyming is a part of my life? Cause I'm living on a line that's a part of the life. These niggas really don't write like they really don't fight. But I'm still not convinced that the game is dead. Because a few lame niggas wanna imitate skills with they limited skills. Fake can't imitate real. Fuck around, you get killed over kicks and snares. They got a well-known Primo feel. How the crowd feel? Make some noise for some real B-boys in the building. Now we teach the children. We wanna hear that Primo shit. Yeah, come on. Boom, back, underground. That Primo shit. With Bumpy on it. Peep. Word up. Collection. Yo. My thoughts interpreted across this perm. Got me bullying the rap game like Big Perm. I know I promised y'all American black. I didn't fall back. I'm letting whack niggas get some shine. I ain't all that. I'm still on track. Tracks by the Primo. Money on the table. I robbed the casino. Raw like Pesci. Smooth like De Niro. I'm popping in the hood like the corner store hero. It's the boom. Back snares crack like a motherfucker head when I'm swinging the bat. These whack niggas can't rap. And the reason for that is dumb niggas don't study. The lesson is that the legend is back. And I'ma school you fruitcakes. New face, two-faced, smiling in a goon face. Money by the suitcase with a worldwide nod. And the producer that we borrowed from the guard. Rest in peace. Let's go. Rest in peace. Wanna hear that Primo shit. Yeah, come on. Boom, back, underground. That Primo shit. Bumpy knuckles, baby. Knuckles, baby. Pop, hardcore. Core. Primo shit. Fire for you with Bumpy on it. Peep the collection. Collection. Et bah c'était quoi ?
That Primo Shit, morceau qui vient tout juste de sortir de DJ Premier, puisque c'est son doux pseudo Primo, avec Bumpy Knuckles, son nouvel acolyte, mais même si ça fait longtemps qu'il officie avec, dans un Maxi Studio Time qui vient de sortir, voilà, DJ Premier. Première.
Et bah on va parler de nos coups de cœur, nos coups de gueule de l'actualité sportive de ces dernières semaines. À tout seigneur, tout honneur, monsieur Raoul.
Et bah écoute, France, terre de Gaulle. Enfin, je fais pas de politique pendant la campagne, mais
5,95.
Ah mais
c'est
pas
ça
que ça, 5,95 et 4,70.
Voilà.
Voilà. La c'est France au les... sommet du monde en saut à la perche. Renaud Lavillenie, 3 mois même pas après son opération de la main, qui est champion du monde avec 5,95, meilleur père mondial de l'année.
Il a fait un stage en Espagne, il y a eu un truc là.
Il n'y a pas besoin de ça lui. Il est à Clermont. C'est la Volvic. Et puis la revenante Vanessa Boslak,
c'est énorme pour elle.
Vice-championne du monde derrière Issine Baeva avec 4,70 m.
Record personnel, record de France. 3 ans après 3 ans de galère, des opérations du genou. C'est génial pour cette gamine. Et puis bah pendant que tu y es, en parlant d'athlée, on va peut-être parler du successeur de l'Adji, peut-être rapidement.
Martino Lagarde.
Ouais, 20 ans, 6,73.
Un beau podium.
Beau podium derrière du. Non. Attends, combien? 7,73.
Non.
Ah, attends, je vais vous redire ça.
En tout cas, je l'ai entendu à une interview.
7,53.
Ouais.
Plutôt rigolo, pas se prendre au sérieux et puis motivé.
Un beau podium, il est avec deux très beaux champions, Trammell et
Liu Xiang.
Et Liu Xiang, le chinois, il fait un temps canon, donc super, super.
Voilà, maintenant il faut tenir sur 110 mètres l'intervalle et puis enchaîner des séances longues avec des pour préparer les JO, ce qui est plutôt pas mal. Moi, je vais compléter à la rigueur parce que j'ai un autre coup de cœur athlétique. Il est un peu plus musclé, il est un peu plus balèze. C'est Valéry Adams, 6e titre mondial au lancer du poids. On rappellera, elle vient à Évreux depuis 2003, régulièrement préparer les compétitions mondiales qui ont lieu sur le vieux continent, comme on se plaît à dire. Là, elle réalise 20-54, elle a un record mondial à 21-24. Un titre olympique, 3 sacres mondiaux et 2 titres indoor. Ça laisse rêveur. Voilà. Raoul se plaît à dire que la performance se mesure sur la durée. Et ben là, je crois qu'on y est dedans parce que quand on regarde son palmarès, depuis 2005, elle n'a pas fait moins bien sur des compétitions mondiales que 3e. Voilà, ça situe un peu le niveau. À toi, Damienski.
Non, moi j'ai été très content, on l'a déjà évoqué, la victoire de la LM Évreux dans la vieille salle des cotonniers qui, c'était peut-être effectivement, comme je l'ai vu marqué à gauche à droite, la dernière rencontre opposant ces deux équipes dans cette salle, puisque normalement l'année prochaine, ils sont au Palais des Sports, mais après...
Pardon, la Kinder Arena.
Imaginez un seul instant, et ça par contre c'est ni un plaisir... ni non plus une taquinade, qu'ils descendent. Vous vous rendez compte un peu de la situation rocambolesque ou en tout cas...
Ah, ils vont avoir une belle salle pour jouer en National 1.
Et déjà qu'ils auraient eu sûrement du mal à la remplir, bah là, ça, c'est partir direct à l'échec. Donc non, c'est ni trop content, ni critique, mais voilà, ça m'a doucement fait sourire. Voilà.
T'étais au commentaire ?
Non.
Tu l'as pas fait finalement ?
Non.
Persona non grata ?
Non, non. J'en ai fait un il y a quelques semaines. Non, par contre, il semblerait que le président, M. Point, a critiqué ouvertement ses joueurs dans la partie. C'était pareil, hein, je l'ai lu. A partie ses joueurs durant le pot d'après-match, dans l'espace un peu VIP. Et à ce qui paraît, c'était pas que Jojo à entendre. Voilà.
À force de jeter de l'argent et de pas en tirer les bénéfices, il peut s'énerver.
Peut-être bien. Possible. Et vous, un coup de gueule, ami Raoul ?
Ouais.
Allez, vas-y.
Vive le houblon, abat les doublons. moi, j'aime bien quand on a des week-ends off, on peut savourer un peu plus, parfois sans modération. Ça n'a pas été le cas ce week-end, on a été raisonnable. Mais par contre, les doublons, ça va bien. Là, on parlait d'équipe de France de rugby qui vient de s'enchaîner 4 matchs. Ça coûte leur saison et un peu plus à des mecs comme...
Comme Claire.
Bah Claire, on sait pas trop. Médard, on en est sûr.
Médard, c'est sûr.
Ah, il est out jusqu'à la fin de saison.
Ah, Médard, il a les croisés pétés.
Ouais, croisés.
Hein, il s'est fait opérer déjà, etc. Voilà. Bon, et puis là, nous, on a une petite version ubuesque de la chose au niveau du volet féminin. Notre chère Ligue Nationale, toujours avant-gardiste et très clairvoyante, a tout simplement programmé la dernière journée de championnat le même jour que le Final Four de Ligue des Champions, auquel Cannes est qualifié. Donc, incapacité pour Cannes d'être à deux endroits au même moment et de disputer deux rencontres. Et donc, la dernière rencontre de championnat de saison régulière, qui était prévue le samedi 24, va être déplacée au mercredi 28. Super pour faire la fête avec vos supporters, super pour accueillir vos sponsors, etc. etc. Donc, les doublons, c'est vraiment minable. Et vive le houblon.
Et vive le houblon. Et ben, je crois que ça sera le mot de la fin. Pour ce café des sports de reprise... il me reste à vous saluer, à vous remercier, Monsieur Damienski, et la technique et votre morceau.
Merci.
Le premier sera le dernier.
Sieur Raoul.
Merci, patron.
Bien le bonjour. On vous rappelle, Didier Super, ce vendredi soir, en direct,
à Louviers,
au Théâtre du Grand Forum.
En parallèle, la LM Évreux reçoit aussi Bourg-en-Bresse. Parce qu'on dit Bourg, hein.
Oui, on dit Bourg maintenant que tu l'as appris.
Ouais, on dit Bourg-en-Bresse.
Et puis, Pays Bressant. Et puis, bah, moi, j'ai deux nouvelles, une bonne, une mauvaise. La bonne, c'est qu'il pleut pas dehors, mais il fait quand même pas jojo par rapport à hier.
C'était mieux hier.
Et la mauvaise, bah, c'est qu'on ferme et qu'on se retrouvera la semaine prochaine en espérant que l'ami Gonzalo soit là. Ciao!
C'est un génie!
Et c'est... Pas vrai, c'est pas vrai! Deux fois, ça, c'est pas vrai!
Chut! Les massues, il faut pacifier, elles pèsent pas moins de 500 grammes chacune. Et but!
Et troisième
et but!
But
d'Emmanuel Petit, qui marque à la dernière minute!
Oh là là, chute de Mélanquille, je suis devant le fond, Gapfond qui est parti dans le terrain!
C'est...
Yann Le Chabot est parti. L'Express, le TGV est parti. Chabot, 958, record du monde.
Pédalage et défonçage sont les mamelles du Tour de France. Alors, il se défonce car la ligne est encore loin.